L'interview santé par Jessica Falour.
Professeur Nadir Saoudi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service cardiologie du centre hospitalier Princesse Grâce à Monaco, membre de l'Académie nationale de médecine et fondateur de l'association monégasque de lutte contre la mort subite. On va en parler justement. On estime qu'en France, plus de 40 000 personnes décèdent chaque année subitement. De quoi faire réfléchir et pour le coup donner clairement envie d'agir. Mais comment ? C'est la question qu'on a envie de vous poser. Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent aider à lutter contre la mort subite ?
Ah oui, il y a beaucoup d'actions. La plus directe et la plus facile à comprendre, c'est d'essayer de la prendre en charge tout de suite, la mort subite. Et c'est ce qui a abouti à la diffusion dans beaucoup de villes. Et à Monaco, on a été les premiers avec une ville de Bourgogne.
Oui, en 2001, vous avez commencé.
Oui. Ça a été la diffusion des ce qu'on appelle les défibrillateurs semi-automatiques, ces petits appareils qu'on met dans la rue.
Dans les lieux publics.
Dans les lieux publics, là où il y a des concentrations de gens. Et là où il y a des concentrations de gens, où il y a de l'émotion. C'est-à-dire, le plus net, c'est les avions et les salles de jeu dans les casinos. Parce que dans les deux cas, ce sont des vases clos. Et surtout dans les salles de jeu de casino, il y a des tensions psychologiques extrêmes. Il y a des arrêts cardiaques qui surviennent là. Et c'est dans ces deux modèles, l'avion et les casinos, que les défibrillateurs semi-automatiques ont été les plus couronnés de succès pour faire avorter une mort subite qui commençait. Les gens s'écroulent brutalement, les personnels sont formés, et puis on diagnostique l'arrêt cardiaque, on fait venir le défibrillateur qui en général est tout près, à 10 mètres, 15 mètres, on met les palettes sur le thorax, on délivre un choc et la personne se réveille. Et ça marche. Et il y a un taux de survie après la mort subite qui est énorme. On appelle ça une mort subite récupérée. Ça peut sembler antagoniste et incompréhensible de dire mort récupérée. La mort ne se récupère pas. Mais c'est le caractère subit du début de la mort qui finalement est avorté. Et il n'y a pas mort.
À condition d'aller très vite.
Il faut aller très
là,
vite.
Les minutes sont comptées. C'est...
Ah oui, c'est au moins de 2 minutes après la chute.
Minutes.
Ah oui. Après, il commence à y avoir des séquelles cérébrales. On peut aussi survivre. On peut survivre jusqu'à 7, 8, 10 minutes parfois. Mais après, c'est une survie dans des états qui sont tellement altérés que ça pose d'autres problèmes, un peu analogues à ceux de Vincent Imbert.
Certaines personnes sont-elles plus à risque que d'autres pour la mort subite ?
Oui, les gens qui fument, les gens qui ont des maladies qu'on appelle coronariennes connues, c'est-à-dire les artères du cœur, ça s'appelle les artères coronaires, celles qui apportent le sang au cœur. Il faut comprendre que le cœur est une pompe qui se contracte sur du sang, qu'il propulse dans une grosse artère qu'on appelle l'aorte, de laquelle naissent des artères qui retournent au cœur, à sa partie externe, et qui ce sont ces artères-là qui apportent le sang qui va nourrir le muscle cardiaque. Et lorsque ces artères sont altérées, par le tabac, par l'hypertension, parce qu'on en a dans la famille, parce qu'on a du cholestérol, qu'on est obèse, qu'on est diabétique, on peut avoir des petits infarctus ou des angines de poitrine, ce qu'on appelle l'ischémie myocardique. Le cœur peut se mettre à souffrir dans diverses circonstances et ça peut entraîner un arrêt cardiaque.
Beaucoup de gens pensent que c'est une fatalité, la mort subite, mais en fait, pas tant que ça.
Ben non, on appelle fatalité quelque chose qui arrive et qu'on ne comprend pas. Mais dès qu'on commence un peu à comprendre, c'est plus de la fatalité. Ça peut même devenir, si on le sait et qu'on ne fait rien, de la négligence.
Lors d'un arrêt cardiaque, chaque minute compte, on le disait. Quels conseils pourriez-vous donner pour agir efficacement si l'on y est confronté directement ou indirectement les gestes qui sauvent
Alors le premier geste qui va sauver, tout de suite appeler quelqu'un. Ce quelqu'un va vous aider à faire les manœuvres de réanimation. Et éventuellement, si c'est vous qui les faites, il va appeler les secours médicalisés qui seront de toute façon nécessaires dans cette chaîne. Ensuite, constater l'arrêt cardiaque, prendre le pouls, faire le massage cardiaque, alterner, mais c'est un petit peu moins important avec le bouche à bouche, la ventilation, mais c'est quand même beaucoup moins important. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans la rue de faire des massages cardiaques quand il est vraiment bien fait et que la tension artérielle remonte. Tout de suite, les gens se réveillent, à tel point que, ça m'est arrivé plusieurs fois, les gens se réveillent et voient quelqu'un qui leur met des grands coups dans la poitrine et essaye de l'empêcher. À ce moment-là, vous arrêtez de masser, il retombe inconscient et vous remassez, et ainsi de suite. Bon, c'est un cas de figure. Et après, il faut à tout prix qu'un choc électrique puisse être délivré. Et ça, c'est soit par le biais d'un défibrillateur semi-automatique, s'il y en a un dans l'environnement, sinon c'est les premiers secours. Il m'est arrivé de masser à quelqu'un pendant près d'une demi-heure avant que le SAMU arrive. C'était pas le SAMU, c'était en Suisse. Et la personne s'en est sortie sans aucune séquelle, hein, qu'une demi-heure de massage. Mais c'est parce que là, pour le coup, il était tombé sur quelqu'un qui savait faire.
Voilà, c'est ça. Mais, aussi, ouais.
Bon, c'est une situation à très haute mortalité, très très haute mortalité. Donc tout ce qu'on fait, c'est bon à prendre.
Est-ce que l'utilisation d'un défibrillateur à mauvais escient peut avoir des conséquences ?
Le risque d'utiliser un défibrillateur semi-automatique à mauvais escient est nul. Parce que ce sont des appareils qui sont semi-automatiques. C'est-à-dire que d'abord, il faut que la personne qui l'utilise ouvre la boîte. Il y a des électrodes dedans qui sont des grands patchs autocollants. On retire le papier qui couvre la surface collante et on l'applique sur la paroi du thorax. L'un sur la droite du sternum et l'autre latéral, sur la paroi latérale du thorax. Et là, on branche l'appareil et l'appareil va vous dire si c'est un arrêt cardiaque. Et seulement s'il vous le dit, il dira « oui, c'est un arrêt cardiaque, appuyez sur le bouton ». Et là, vous appuyez et le choc est délivré. Si ce n'est pas un arrêt cardiaque, l'appareil vous dira « ne choquez pas ». Donc, il n'y a pas de risque réel.
Il n'y a pas de risque.
Et les appareils sont très, très fiables. Ils ont été testés, multitestés, c'est très fiable.
D'accord. Donc, il ne faut pas avoir peur de
l'utiliser
à mauvais escient et de se dire « oui, mais si je fais une bêtise parce que ce n'est pas
non, un c'est le risque. La peur de la bêtise, c'est ce qui hante l'esprit de chacun. Mais vous ne ferez pas une bêtise en essayant de sauver quelqu'un. Bien sûr, il y a des gens dont le caractère sauveur, Spider-Man, Superman, viens, poussez-vous, moi je sais. Mais si c'est par le biais d'un défibrillateur semi-automatique, il ne pourra pas faire d'erreur.
Les formations des premiers gestes et aussi pour l'utilisation du défibrillateur sont assez longues et pas forcément évidentes. Les gens ne font pas trop la démarche. Comment ça se passe justement concrètement pour faire une formation ?
Alors, il faut qu'il y ait une politique là où vous êtes municipal ou à Monaco, c'est une politique nationale, mais c'est à la fois une ville et un État, mais il faut avoir le soutien des autorités pour populariser ça par le biais de campagnes, de publicité, d'événements. Avec des démonstrations de massage cardiaque, si possible de l'enseignement dans les écoles, et de toute façon que tout un chacun puisse facilement savoir qu'en téléphonant à tel numéro, il aura la possibilité de se former. À Monaco, c'est la Croix-Rouge Monégasque qui dispense des cours, et il y a des séries de cours, c'est très très bien fait, il y a des examens à la fin, c'est pas des examens brimants ni sélectifs, c'est vraiment juste une évaluation des connaissances, et on solidifie les connaissances si besoin était, et les gens sont incités à le faire. Et comme toute campagne de pub, il faut que ça soit répété, parce que après, si jamais il y a un événement, il va y avoir un effet de mode, un effet de sensibilisation, mais qui va disparaître avec le temps. Donc il faut régulièrement se remettre à l'ouvrage, et c'est un travail de longue haleine. En fait, c'est un travail de politique, c'est de la gestion de la ville, ça.
Pour tous les gens qui n'ont pas encore fait cette formation, que faut-il absolument savoir avant une première utilisation de défibrillateur ?
Rien. C'est pas la peine. N'importe qui peut apprendre. N'importe qui peut apprendre à diagnostiquer un arrêt cardiaque et n'importe qui peut apprendre à faire les gestes de premier secours. Faut pas s'imaginer qu'il faille avoir fait ou des études ou avoir une connaissance préalable, parce que ce serait le plus grand frein possible à l'expansion de cette technique.
Merci beaucoup pour tous vos conseils, professeur Nadir Saoudi. Je vous laisse retirer votre blouse blanche et enfiler votre costume de lumière, puisque vous avez une autre carrière hein, de musicien, de chanteur, une carrière parallèle, et vous arrivez justement à joindre l'utile à l'agréable, hein, puisque vous faites des concerts hein, depuis de très longues années. Vous êtes réputé pour ça à Monaco. Alors racontez-nous un petit peu, parlez-nous de ce que... Donc là maintenant c'est le crooner qui parle de vos concerts.
Je ne suis pas certain que ça intéresse beaucoup vos auditeurs.
Mais bien sûr que si.
Oui, j'aime la musique, j'en fais depuis toujours. Et puis, je fais à peu près 3 concerts par an avec le même pianiste depuis 12 ans maintenant, qui est un type extraordinaire, un Anglais que j'adore. Enfin, vraiment, on s'entend très très bien. On travaille très très profondément les chansons. C'est un grand professionnel. Et à chaque fois qu'on fait des récitals, c'est toujours très très au point, très... ça marche bien, puis qu'est-ce qu'on s'amuse, c'est fantastique la musique. Je vous conseille d'en faire, c'est la meilleure des thérapies. Moi j'ai jamais fait de psychanalyse, mais la musique ça me suffit largement.
Je parlais de joindre l'utile à l'agréable, vos concerts servent aussi à réunir des dons Hein, y a aussi l'aspect caritatif dans vos concerts. On sent que le médecin est quand même pas très loin du chanteur.
C'est un alibi. Enfin, c'est pas seulement un alibi, c'est que tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Et en faisant ça, on peut faire venir des gens qui sont des donateurs, là encore. Ou même des gens qui donnent pas grand-chose, mais qui permettent de rassembler des petites sommes qui peuvent être dispatchées à des associations humanitaires, dont une autre que j'ai créée, qui s'appelle l'Association de cardiologie Monaco-Maroc, et qui permet de financer des opérations humanitaires au Maroc aussi. Enfin, c'est toujours plus rigolo de joindre l'utile à l'agréable.
Parfait, très bien. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt, au revoir.
La santé sur tout.com